L'actualité francophone en Belgique, argument de santé et argument budgétaire autour des taxes sur le tabac. En France, le premier débat de la primaire à gauche, laborieux, sans véritable polémique. L'Afrique est le bilan de la présidence Obama. Les étudiants suisses, très nombreux à solliciter une aide psychologique proposée par les universités. Et au Canada, changement à la tête de la diplomatie du pays. D'abord, les personnalités de la semaine en Afrique. Charlotte Hydrac, le nouveau vice-président de Côte d'Ivoire.
Oui, Daniel Kablan-Duncan, c'est le premier vice-président de l'histoire du pays puisque ce poste est tout nouveau, tout juste créé par la Constitution de la Troisième République. C'est un proche du président Alassane Ouattara. Il était jusque-là son premier ministre. Daniel Kablan-Duncan devient donc à 73 ans le dauphin du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. Un profil de technocrate consensuel et qui rassure bien loin du requin politique.
En Belgique, Nathalie Devic, vous rendez hommage à une légende du football belge.
François Van der Elst, décédé mardi des suites d'un arrêt cardiaque. L'attaquant avait fait les beaux jours du Sporting d'Anderlecht dans les années 70. Il en était devenu la coqueluche avec 80 buts marqués en 12 saisons. L'un des plus beaux palmarès du club, deux fois champion de Belgique. Soit, comme on l'appelait affectueusement, avait aussi participé à la plus belle épopée internationale des Diables Rouges. Coupe du Monde, Euro dans les années 80. Il venait juste de fêter en décembre ses 62 ans.
En Suisse, Piran Chauffa, vous avez choisi un citoyen d'origine bosniaque.
Né à Sarajevo il y a 40 ans, Nenad Stojanovic a 16 ans quand il fuit la guerre pour se réfugier en Suisse. Il ne parle alors aucune de nos langues. Parfait exemple d'intégration. Il a depuis enseigné les sciences politiques dans les universités des trois régions linguistiques. Aujourd'hui, ce socialiste a décidé de revivifier la démocratie suisse en inventant le référendum pour une loi plutôt que pour la combattre. Il juge en effet indispensable que le peuple donne une pleine légitimité à la mise en œuvre de l'article contre l'immigration de masse. Nenad Stojanovic s'est lancé tout seul dans la récolte des 50 000 signatures nécessaires pour provoquer une votation sur cette solution qui préserve la libre circulation avec l'Union européenne.
La femme de la semaine en France, Isabelle Huppert, 63 ans, elle a reçu dimanche dernier le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle d'une femme violée dans Elle de Paul Verhoeven. On a tous vu dans les journaux l'image de la comédienne recevant son prix dans une robe grise brodée de strass. Isabelle Huppert, actrice audacieuse au cinéma, au théâtre, silhouette fine, sourire un peu réservé, toujours dans une certaine froideur. Elle sait tout jouer, femme antipathique, frustrée, guettée par la folie, fausse ingénue, pianiste sulfureuse tout au long d'une carrière impressionnante, plus de 100 films en France et à l'international et de nombreux prix. Dans les films, il n'y a pas beaucoup de choses qui me font peur, proclame Isabelle Huppert. Benoît Audet au Canada, votre personnalité de la semaine, c'est Stéphane Dion, l'ex-ministre des Affaires étrangères.
Oui, ex-ministre, puisqu'il a perdu son poste à la suite d'un remaniement ministériel. Stéphane Dion était ministre des Affaires étrangères depuis plus d'un an. C'est un vieux routier de la politique canadienne. Il a fait son entrée au cabinet en 1996 pour donner la réplique aux souverainistes québécois. Stéphane Dion a aussi été chef du Parti libéral. Il avait subi la défaite aux élections de 2008 aux mains des conservateurs.
L'actualité en Belgique, Nathalie Devic, le gouvernement ne sait plus que faire de ses paquets de cigarettes.
L'an dernier, il avait décidé d'augmenter les taxes sur le tabac, officiellement pour inciter la population à réduire sa consommation. Mais derrière cet argument santé, personne ne s'en cachait. Il espérait aussi augmenter ses recettes. Or, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Le prix du paquet a tant augmenté qu'il a effectivement bien découragé les fumeurs. Premier objectif atteint. Mais ce à quoi l'État ne s'attendait pas, c'est que les ventes chuteraient au point de rapporter finalement moins d'argent qu'avant dans ses caisses, quelques 150 millions. Du coup, marche arrière, le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, brise le tabou et propose que l'on rabaisse cette fois les taxes dans le but avoué de ramener des sous, sous-entendu donc en relançant la vente. Tollé au ministère de la Santé, favoriser le tabagisme pour renflouer les caisses est parfaitement immoral, comme l'exprimait aussi cette députée fédérale, par ailleurs médecin, Catherine Fonck.
Le gouvernement, dans le fond ici, le ministre des Finances, il préfère gérer sa popote budgétaire plutôt plutôt qu'avoir une véritable vision en matière de santé publique pour protéger les gens. Et ça, je trouve totalement inacceptable.
Bon, ce que tempère le ministre des Finances, pour lui, la conséquence d'un prix plus élevé du tabac n'est pas que les Belges fument moins, mais qu'ils vont davantage l'acheter chez nos voisins, luxembourgeois principalement, pas en France où c'est encore plus cher. D'où le manque à gagner en termes de recettes fiscales pour l'État. L'État qui va donc devoir choisir une bonne fois pour toutes entre son portefeuille et son engagement moral, entre exigences budgétaires à court terme et santé publique à bien plus long terme. Le débat est loin d'être clos.
En France, après les débats de la primaire à droite pour la présidentielle, voici les débats de la primaire de la gauche. Le premier a eu lieu jeudi soir avec 7 candidats, 6 hommes, 1 femme, 2h30 de discussion aseptisée, pas de polémique, d'interpellation. Chacun est resté dans son couloir pour développer des idées déjà bien connues comme le revenu de solidarité universelle, les bienfaits de la loi travail, un vaste plan de relance économique avec des baisses d'impôts. Pour tous, il fallait se démarquer du quinquennat de François Hollande. Mais sans le pilonner, 4 candidats font le bilan. D'abord, Arnaud Montebourg.
C'est un bilan difficile à défendre, mais qui contient des avancées. La COP21, le mariage pour tous, le tiers payant généralisé, les carrières longues qui ont bénéficié de la retraite à 60 ans.
Benoît Hamon, d'un mot, 5 ans de quinquennat de François Hollande.
Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé, comme si nous étions restés sur beaucoup de sujets au milieu du gué.
Vincent Payon.
Oui, c'est le sentiment d'une profonde incompréhension qui s'est établie très vite avec le pays et avec ceux qui nous avaient soutenus. Et donc la crise politique dont nous héritons, elle est très profonde.
Manuel Valls, si vous aviez un mot.
Fierté d'avoir servi les Français dans une période très difficile, notamment, ne l'oublions jamais, face au terrorisme.
Dans ses commentaires, la presse reste sur sa faim. Ce premier débat laborieux avait des airs de grandes réunions de famille. Il en faudra bien plus pour fixer l'opinion, notent les éditorialistes qui semblent s'être un peu ennuyés. On attendra donc les 2 autres débats dimanche et jeudi prochain et peut-être des affrontements plus directs. En Suisse, Pierre Chauffal, les étudiants ne semblent pas au mieux de leur forme psychique.
C'est vrai, selon l'enquête de notre rédaction, rien qu'en Suisse romande, ils sont 1 000 000 à avoir fait appel aux services psychologiques des différentes universités l'an dernier, ce qui ne dit encore rien de ceux qui ont pu consulter hors du cadre universitaire. Et la tendance est à la hausse, notamment à Genève, où la progression des patients s'inscrit à 35% par rapport à 2015.
Et comment s'explique cette hausse, Pierre-En ?
Eh bien d'abord par une offre améliorée, un accès facilité à ces prestations psychologiques par le biais d'un système en ligne, où l'étudiant peut prendre rendez-vous très simplement. Mais au-delà du côté pratique, ce système a contribué, si vous voulez, à dédramatiser la démarche, à la rendre moins stigmatisante. Autrement dit, les étudiants ne vont pas forcément beaucoup plus mal qu'avant, mais ils rechignent moins à consulter.
Et sur les causes de ce mal-être, est-ce qu'on en sait un peu plus ?
Les facteurs sont multiples, des difficultés personnelles à la peur du lendemain, sans oublier la pression universitaire qui s'est accrue. Gabriella Lutti est membre de la direction de l'Union nationale des étudiants de Suisse.
Je ne crois pas que c'est uniquement la dépression. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent être liés aux études. Il y a des limites de plus en plus dures pour la remise des travaux. On n'a pas la possibilité de refaire un examen plusieurs fois.
Plus de pression, clairement. Ouais.
Voilà. Mais on en parle plus ouvertement. Et donc ça facilite certainement la demande, mais la demande est réelle.
Même si leurs services psychologiques travaillent à flux tendu, les universités assurent ne pas encore s'alarmer de la situation.
En Afrique cette semaine, Charlotte Hydrac, on a suivi et commenté les adieux de Barack Obama.
Oui, bye bye Obama, et au Kenya, pays natal de son père, le futur ex-président américain est considéré comme un fils du pays. Son élection en 2008 avait suscité là-bas des scènes de liesse. Il s'était rendu sur place en 2015 et à Nairobi, on se souvient surtout de l'engagement américain contre le terrorisme, du renforcement de l'aide et de son style.
Personnellement, il va me manquer. J'aimais son sens de l'humour, le fait qu'il était proche des gens et son charisme.
Peu de gens savent à quel point l'aide américaine a été importante au Kenya. Et je suis inquiet quant au président qui arrive, car des postes pourraient être supprimés.
Sur le plan politique, les attentes du continent étaient immenses à l'égard du premier président noir des États-Unis. 2 mandats plus tard, au Burkina Faso, malgré sa déclaration remarquée, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Le bilan est plutôt mitigé.
On croyait quand même qu'il allait s'intéresser aux problèmes des Africains.
C'est vrai, il a été aussi négatif dans son mandat concernant l'Afrique. Il a été vraiment un acteur capital pour la chute du guide libyen. Et nous savons tous ce qu'est devenue la Libye maintenant.
Barack Obama a montré qu'il n'y avait pas de privilèges particuliers accordés donc à ses parents africains pour leur développement.
Voilà le sentiment d'avoir été négligé, mais l'Afrique n'a jamais été au cœur des intérêts américains et cela ne devrait pas changer, loin de là, avec la nouvelle administration de Donald Trump.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a remanié son gouvernement moins de 15 mois après son élection. Et ce qui retient l'attention, Benoît Audet, c'est l'arrivée d'une nouvelle figure au ministère des Affaires étrangères.
Oui, Chrystia Freeland, qui était auparavant ministre du Commerce international, elle s'était fait connaître l'année dernière en jouant un rôle clé pour sauver l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Elle s'était rendue en Belgique pour négocier directement avec le gouvernement de la Wallonie, qui était fortement opposé à l'accord.
Et le défi qui l'attend risque d'être plus grand encore, Benoît.
Oui, parce qu'elle est nommée au moment où les relations entre le Canada et les États-Unis entrent dans une phase plutôt délicate avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Mais Chrystia Freeland croit tout de même qu'il sera possible de maintenir de bonnes relations. La voici.
Il est absolument clair que notre gouvernement et le nouveau gouvernement des États-Unis ont beaucoup de différences. Mais en ce qui concerne notre préoccupation avec la classe moyenne, je pense qu'il est bien possible d'avoir une conversation productive.
Et Benoît Audet, avec la Russie, l'arrivée de Chrystia Freeland n'annonce pas un réchauffement, du moins à court terme.
Non, elle fait partie des 13 Canadiens qui sont interdits de séjour en Russie en représailles aux sanctions adoptées par Ottawa. Chrystia Freeland, qui a des origines ukrainiennes, a dénoncé l'annexion de la Crimée par la Russie. Pour le moment, elle ne peut toujours pas se rendre à Moscou, mais le Kremlin a réagi en disant que Chrystia Freeland pourrait toujours rencontrer des responsables russes à l'extérieur de la Russie.
Et voilà, c'était l'actualité francophone. Retrouvez-nous sur le site lesmediafrancophones.org.